6 minutes d'Écho FM. Reportage, témoignage, réaction. Tout de suite, l'invité et le sujet du jour.
Le 6 minutes de la rédaction d'Écho FM du lundi au vendredi, juste après l'actualité nationale. On va revenir du côté de Glageon. On va parler d'élections municipales avec, on va dire, un petit coup de froid du côté de Glageon en compagnie de monsieur Bettini.
C'est un euphémisme, effectivement. Frédéric Bettini, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce midi sur Écho FM. Vous aviez annoncé votre volonté de vous représenter en avril pour donc 2026. Qu'est-ce qui vous a finalement conduit à renoncer si rapidement après l'annonce? C'est vrai qu'on l'a vu partout ces derniers jours, de votre adjointe Aurélie Perrault à se présenter. Est-ce qu'il y a un rapport au fait qu'Aurélie Perrault se présente et votre non-candidature?
Alors, il n'y a pas de rapport direct entre ma non-candidature et l'annonce de la candidature d'Aurélie Perrault. Ma non-candidature repose en fait sur trois piliers. Même si j'ai fait un seul mandat de maire, c'est mon quatrième mandat d'élu à Glageon. J'ai été trois mandats adjoint auparavant. Et j'arrive à une forme de saturation de la fonction élective qui tient à deux choses. J'ai toujours travaillé à temps plein, à côté de mon mandat d'élu. J'étais même pompier volontaire auparavant et je cumulais pompier volontaire, élu et travail à temps plein. Et j'arrive à une forme de saturation parce que je n'ai pas suffisamment de temps pour ma famille, de temps pour mes enfants, de temps pour mes petits-enfants qui sont nés depuis 2020. Et je n'ai pas suffisamment non plus d'énergie, je n'ai plus suffisamment d'énergie pour cumuler des fonctions de cadre au département et des fonctions d'élu efficace. Et mon honnêteté personnelle fait que si on n'est pas pleinement disponible, on ne doit pas continuer à faire croire aux gens qu'on l'est et on ne doit pas continuer à vendre aux électeurs qu'on va l'être. Et donc, c'est une réflexion depuis plusieurs mois. J'avais annoncé en début d'année à mon conseil, aux membres de mon conseil et à mes adjoints, que je ne souhaitais pas continuer. Alors, sous la pression amicale des uns et des autres, j'avais continué à penser pouvoir peut-être poursuivre en étant épaulé différemment ou peut-être susciter une candidature à l'interne de l'équipe. Donc, j'ai travaillé à constituer une nouvelle équipe pour remplacer ceux qui naturellement s'arrêtent. J'ai pré-constitué une liste. J'ai continué à me faire croire ou à faire croire que j'allais être que j'allais pouvoir être à nouveau candidat. Mais en parallèle, la saturation est aussi due à des problèmes de santé récurrents depuis plusieurs années, mais qui prennent une place de plus en plus importante dans ma vie de tous les jours. Et j'attendais des résultats médicaux. Alors c'est long en Avesnois, en Sud-Avesnois, pour avoir des rendez-vous chez des spécialistes, pour avoir des résultats qui doivent se compléter, se croiser. Et j'ai eu les derniers résultats le 20 septembre. Et donc j'ai décidé de privilégier ma santé, ma vie de famille, ma vie professionnelle, et d'annoncer publiquement que je ne me représentais pas aux élections.
Et donc il y a eu cette histoire. Et alors c'est pas forcément, on le sent, la candidature d'Aurélie Perrault qui vous pose problème, mais le timing peut-être, voilà, de l'annonce.
Alors c'est une question de timing, parce que je suis intimement convaincu, si elle annonce dans ses communications électorales qu'elle est convaincue que je n'avais pas l'intention de la reprendre dans l'équipe, moi je suis convaincu qu'elle prépare sa candidature depuis des mois, voire des années, qu'elle le fait librement et en toute connaissance de cause, et parce qu'elle a envie de le faire, parce qu'elle a l'ambition d'être maire de Glageon ou d'ailleurs, mais elle a l'ambition d'être maire. C'est peut-être un rêve de jeunesse, c'est peut-être un rêve tout court, une envie, et elle a le droit de l'avoir, et je lui souhaite de réaliser ses rêves. Mais disons que elle s'est auto-persuadée qu'on n'allait pas la reprendre, qu'on n'avait pas besoin d'elle, qu'on allait lui peut-être la rejeter, ce qui n'était pas du tout le cas.
Quels étaient vos rapports avec elle jusqu'alors?
Alors, extrêmement courtois, des relations de confiance que je croyais réciproques, mais donc moi, par exemple, dans l'exercice de sa délégation, je lui ai donné tous les moyens possibles pour faire le travail qu'elle avait à faire au sein de la mairie de Glageon, comme je l'ai fait auprès des cinq autres élus qui étaient adjoints au conseil des délégués. Chacun dans ce domaine a eu une pleine liberté d'action, une pleine liberté de réaliser ce qu'il avait envie de réaliser. Et ça a été plutôt bénéfique, puisque de manière globale, tout le monde me dit que Glageon vit mieux qu'avant. Qu'on a certes réalisé des investissements, des constructions dures, mais aussi dans la vie de tous les jours du village, il y a des choses qui se sont améliorées. On a des commerçants, on a des manifestations culturelles qu'on n'avait pas avant, on a des animations qu'on n'avait pas avant, on a la présence du centre social qu'on n'avait pas avant. Tout ça, ça a amélioré la vie quotidienne des habitants. Mais ça tient à mon action, mais ça ouais. Tient aussi à l'action qu'on a menée collectivement.
Certains diront peut-être, c'est purement politique, mais elle peut être aussi envoyée, elle est très proche de Mickaël Hiroux. Est-ce que on pourrait pas, est-ce que vous aviez de bonnes relations aussi à l'intercommunalité? Vous sentez aussi un petit peu le trublion quand même dans cette interco?
Moi, je je pensais avoir des relations correctes avec tout le monde, c'est-à-dire que je suis quelqu'un de sincère. Si on doit me mettre une étiquette, c'est ça, j'ai une certaine sincérité. Et donc je pense toujours que les autres sont sincères avec moi aussi. Et donc, je pense avoir des relations correctes avec tout le monde. J'ai des relations proches, ou j'ai eu des relations proches avec beaucoup d'élus de l'Interco, même avant d'être élu maire. Michael Hérault, c'est quelqu'un dont j'apprécie l'action. C'est-à-dire que comme maire de Fourmi, il a fait un travail absolument remarquable. Et puis, on ne peut pas nier que Fourmi avance et change. Ensuite, dans le relationnel un petit peu sous-marin, c'est-à-dire comment obtenir des soutiens, comment obtenir l'envie ou pas d'être accompagné. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui fréquente les mondanités. Je ne suis pas un adepte de l'entre-soi politique. Je ne suis pas un adepte non plus de l'image à tout prix. Et donc, je ne suis pas, disons, dans l'ambiance qui permet d'être le copain de tout le monde, de s'afficher en photo avec tout le monde, de s'afficher à telle ou telle manifestation, même si on n'a pas grand-chose à y faire. Moi, j'estime que le temps que je consacre à ma fonction d'élu doit être du temps utile. Et du temps utile pour mes habitants, pas du temps utile pour mon image.
Alors comment étiez-vous perçu au niveau de l'intercommunalité ?
C'était... Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être un troublion, mais un troublion quand même très discret. C'est-à-dire que j'ai voté 90% des sujets qui nous sont présentés en interco favorablement, et parce que c'est souvent des sujets d'intérêt général et que ça ne nécessite pas d'avoir une position particulière. Mais il y a des projets à plus long terme peut-être de l'interco qui me déplaisent, comme la piscine, mais qui me déplaisent en tant que citoyen.
Vous aviez noté aussi cette incapacité, ou plutôt un manque de capacité pour investir.
Oui. En fait, on a une interco qui est trop petite. Elle est trop petite en nombre d'habitants, elle est trop petite en capacité budgétaire, et elle est trop petite pour avoir des projets qui ne correspondent pas à ses besoins primaires.
Vous êtes sur Eco FM, Frédéric Bétimi, le maire de Glajon, pour réécouter, ou plutôt pour poursuivre cette interview. Rendez-vous, eh bien, tout simplement en podcast sur le www.eco-fm.fr. Frédéric Bétimi, maire de Glajon, on le rappelle, donc vous avez décidé, eh bien, tout simplement de ne pas vous représenter. On parlait d'intercommunalité à l'instant, vous notiez bien un petit peu la taille de cette interco, et peut-être aussi sa capacité peut-être d'être au max pour les investissements.
En fait, elle est trop petite, elle n'y peut rien si elle est petite, mais c'est le péché originel de la réorganisation intercommunale qui a eu lieu en 2014, c'est-à-dire qu'on a créé dans la Vénois 4 interco, une énorme agglo autour de Maubeuge-Val-de-Sambre, puis 3 EPCI plus ruraux en Sud-Avénois, cœur de la Vénois et Pays de Mormal. Et il se trouve qu'on est la plus petite des 4 en termes d'habitants et donc en termes de ressources budgétaires. Et donc ça empêche d'avoir des projets, d'avoir une dynamique, d'avoir des projets qui soient un peu plus importants que le quotidien. Et on n'a déjà pas les moyens de satisfaire correctement des besoins primaires des habitants. Et donc quand on envisage de faire une piscine à 21 millions d'euros, 21 millions d'euros qu'on n'a pas, clairement, qu'il faudra aller chercher dans les banques, il va falloir aller chercher des subventions. Même si on a des subventions importantes, ça ne couvrira jamais 80% de 21 millions. Et à notre échelle, le reste à charge va être énorme. Et il faudra le financer. On n'aura pour le financer pas d'autre solution que d'emprunter, et pour rembourser des emprunts que d'augmenter les impôts.
On le disait, et donc je revenais à ma question. Est-ce qu'à un moment donné, cette candidature d'Aurélie n'est pas non plus une petite démarche de Michael Hérault pour...
Alors ça, j'en sais rien. Il l'affichera pas. Enfin, je pense pas que lui-même, au jour d'aujourd'hui, n'affiche un quelconque soutien public. Après, la proximité d'Aurélie avec Michael Hérault n'est un secret pour personne. Elle est son assistante au niveau du département. C'est-à-dire qu'en tant que vice-président du département, il a le droit à une collaboratrice, et sa collaboratrice est Aurélie. Elle est vice-présidente de l'Interco, parce que je n'ai pas souhaité moi-même être vice-présidente d'Interco, et il a trouvé pour me remplacer Aurélie, qui était déjà son assistante, et elle est aussi au Parc Naturel Régional. Enfin voilà, elle est dans beaucoup d'instances pour seconder Michael Hérault, et à l'origine pour seconder Benoît Wasca. Donc fatalement, il y a une proximité et une confiance entre eux. Donc fatalement, il ne verra pas d'un mauvais œil sa candidature. Ce qui me gêne le plus, moi, ce qui m'embête le plus, c'est qu'à la première diffusion sur les réseaux sociaux de sa candidature, elle a reçu un soutien quasi unanime des élus autour, comme si moi je n'avais pas existé. Mmh. C'est-à-dire comme si sans Aurélie on n'avait rien fait. Et donc,
c'est là qu'on voit la notion d'écœurement dont vous parliez à nos confrères du courrier de fourmis.
Un petit peu. Donc, d'ailleurs, je leur en ai pas parlé. C'est eux qui m'ont prêté des paroles. Je leur parle que cet après-midi. Donc, voilà. Je ne leur parle que cet après-midi.
Voilà, c'est,
anticipe.
C'est, voilà, exactement. Voilà.
Et donc, et ça fait partie de l'écœurement aussi. Mais donc, il y a une notion d'écœurement, oui, une saturation, je disais, parce que depuis 20 ans, je peux pas me promener dans le village sans qu'on me demande quelque chose, sans qu'on me réclame quelque chose ou sans qu'on me reproche quelque chose. Je ne peux pas aller une soirée associative sans qu'on vienne m'expliquer ce qu'il aurait fallu faire à la place. Je ne peux pas aller faire mes courses sans qu'on vienne m'expliquer le pourquoi du comment ou qu'on vienne me demander le pourquoi du comment. Paradoxalement, depuis que j'ai annoncé que je n'étais plus candidat, on m'arrête dans le village, mais pour me féliciter ou pour me remercier. C'est quand même.
On est toujours davantage aimé voilà. Dans l'après. Hein.
Voilà. Jacques Chirac a été aimé après
ça. Si vous voulez,
même adoré.
Ça fait penser un peu à des funérailles où on ne trouve que des qualités aux défunts. Voilà. Quel qu'ait été son parcours. Mais donc, pour revenir sur la proximité entre Michael Hérault et Aurélie, c'est quelque chose probablement de naturel, d'humain. Quand on travaille avec quelqu'un tous les jours, on lui fait confiance. Là où c'est moins naturel, et moins, je ne suis pas convaincu que ça donne à Aurélie toutes les qualités, toutes les compétences, toute la personnalité qui sont nécessaires pour être maire d'une commune rurale. La proximité avec les élus, ça vous donne un atout, ça vous donne pas des compétences.
On ne pourra pas vous enlever la maison Nord Santé, le dojo, l'école maternelle, le restaurant scolaire, la rénovation de l'école primaire. Il y a bien d'autres choses qui ont été faites ces dernières années. De quoi êtes-vous le plus fier aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait vraiment votre fierté à Glajon?
Deux choses. Le groupe scolaire des Marous, puisqu'on a créé de toutes pièces un restaurant scolaire, une école maternelle. On a rénové de fond en comble l'école primaire. On les a inscrits dans un environnement paysager. Et puis la rénovation, alors c'est bizarre, mais la rénovation et la restructuration de 7 km de voiries à Couplevoie, des voiries qui n'avaient jamais vu une pelle depuis plus de 50 ans et qui ont été rénovées de fond en comble. Donc on a travaillé sur le centre du village, mais on n'a pas oublié la périphérie, on n'a pas oublié le hameau. Et voilà, je suis fier que le village ait un visage et fait un lifting complet sur ces 5 années de mandat.
Si on faisait une photographie de Glajon, on va dire à la fin de votre mandat, les finances, les projets, tout ce qui ont été réalisés, est-ce que vous diriez on va laisser une situation clean?
Alors on va laisser une situation très clean. Il y a encore des projets, enfin il y a des dossiers qui sont encore en cours. En vous quittant tout à l'heure, je rencontre des gens qui veulent venir investir sur Glajon.
Quels sont-ils?
Ah, ça, je peux pas le dire. Ça serait la surprise. C'est le dernier cadeau que je réserve au Glajonais. L'idée, c'est que on a une situation financière qui est très clean parce qu'on a bénéficié de la dynamique du pacte pendant tout le mandat. Donc, on a pu avoir des subventions importantes qu'on n'aurait pas eu sans la dynamique du pacte. On a pu donc se lancer dans des investissements qu'on n'avait même pas envisagés ou alors qui auraient pris 2-3 mandats pour les réaliser. Là, on les a fait sur un seul mandat. Mais paradoxalement, la situation est quand même clean. Alors, on sait qu'en 2026, c'est prévu, parce que moi, j'avais une ingénierie financière calculée, prévue jusqu'à 2030. On sait qu'en 2026, c'est un peu une situation de creux, mais c'est consensuel. On sait qu'une année d'élection, c'est pas l'année où on investit le plus. Et donc, on a un peu une année de creux. Mais le temps que les instances se mettent en place, le conseil, l'interco, etc., une année électorale démarre en juin. Et donc, elle se termine en décembre, comme tous les ans. Et donc, on sait que la commune retrouvera des capacités d'investissement identiques à celles de mon début de mandat, donc en 2020, en janvier 2027.
Oui. Frédéric Bettini, vous avez évoqué, et on ne rentrera pas trop dans cette partie parce que ça reste bien du personnel, mais quelques soucis de santé. Je vais ouvrir une parenthèse. Si, vous n'aviez pas rencontré ces soucis-là, est-ce que vous seriez reparti malgré ce qui arrive aujourd'hui?
Sans les soucis de santé aussi prégnants, peut-être. Parce que en fait, ça joue beaucoup. Je vous dis mais c'est pas que l'aspect saturation et l'aspect difficulté à tout allier dans une vie de tous les jours, c'est difficile. Parfois, je suis au travail et je pense à la mairie. Parfois, je suis à la mairie et je pense au travail. Parfois, je suis à la maison, je pense à la mairie et au travail. Et parfois, même en vacances, on décroche jamais vraiment. Voilà. Donc, il y a vraiment l'aspect saturation. Mais j'aurais préféré vraiment que la solution vienne de l'intérieur, vienne en pleine discussion, en pleine pleine transparence, qu'on travaille ensemble à préparer l'avenir et puis partir serein en me disant je vais être remplacé par des gens qui ont le même esprit.
Vous avez découvert la politique ?
Peut-être. Ouais, la politique politicienne, je la découvre, même si je travaille à côté depuis toujours. Mais moi, j'ai toujours été un technicien dans une administration importante. Le département du Nord, c'est une grosse administration, mais l'administration est neutre. Et quelle que soit la majorité à la tête du département, on fait notre travail, on constitue les dossiers, on instruit les dossiers. Et fatalement, moi, je n'ai jamais travaillé en ayant un esprit partisan, jamais. J'ai travaillé pour des collectivités de gauche, de droite, du centre, d'ailleurs. Et j'ai toujours travaillé dans la mise en œuvre de l'action publique, pas la mise en œuvre de mon image.
Alors que dire aux habitants de Glageon qui vous ont soutenu pendant toutes ces années et qui auraient souhaité peut-être vous revoir candidat ?
Alors de ce qu'ils me disent depuis quelques jours, oui, c'est vrai. Alors ce que je leur dis, c'est simplement merci. Merci de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir compris aussi l'esprit dans lequel je travaillais, parce qu'il y a beaucoup de gens, alors je suis extrêmement surpris, il y a même des gens qui m'avaient proposé de se présenter avec moi, qui étaient mes pires détracteurs en début de mandat. Et donc...
La politique jusqu'au bout.
La politique jusqu'au bout. C'est-à-dire que je suis... Mais là... C'est de la politique dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on finit par convaincre les gens, non pas parce qu'on dit, mais parce qu'on fait. Voilà. Voilà. Alors si je pouvais faire un petit mot pour conclure, parce que je crois qu'on n'est pas loin de la conclusion, je crois que la candidature de Mme Perrot est intelligente, mais elle est artificielle, un petit peu à l'image de ses tracts.
Merci Frédéric Bettini d'avoir été avec nous ce midi sur Eco FM.
Retrouvez cet entretien à l'heure de votre choix en podcast sur echo-fm.fr.